Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kakà in percussione, Sciacca all'ingresso in aria ancora, Kakà, davanti al portiere, Kakà, rete, 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 Kakà.
Pallone che arriva, Trezeguet, Totti! Pirlo ancora, Pirlo di tacco, tiro, gol! Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci provo con il testo,
la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% football italien. Je suis bien évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard Pacini. Salut Guillaume.
Salut Johan, salut tout le monde.
Alors Guillaume, aujourd'hui on revient sur le sacre du Napoli, vainqueur du championnat d'Italie saison 2022-2023. On va évidemment parler en détail de la saison du Napoli, des joueurs, de l'entraîneur, du jeu, des célébrations du Scudetto à Naples, parce qu'évidemment ça a été une vraie déflagration à Naples de gagner un Scudetto 33 ans après le précédent. Mais je voulais qu'on commence par quelque chose de beaucoup plus dans l'émotion entre guillemets. Quel est ton coup de cœur de la saison du Napoli? Alors quand je dis ça, on n'est pas obligé de prendre un joueur, on n'est pas obligé de prendre l'entraîneur, le jeu, etc. Mais si je te dis saison du Napoli, toute compétition confondue, le premier truc qui te vient à l'esprit?
Écoute, moi je vais peut-être en surprendre plus d'un ou plus d'une, mais c'est vrai que, en fait moi je vais te donner le moment où j'ai compris que le Napoli voulait gagner le titre. Alors il y en a eu deux, on en a parlé pour dévoiler un peu les coulisses juste avant d'enregistrer. Le premier, c'est, alors je parle vraiment de la Serie A, le premier c'était contre la Roma où voilà, c'était pas un match fou, on se dirigeait tout droit vers un 0-0 assez tristoun, et c'est vrai que sur un but assez dingue d'Osimhen, un éclair de génie, une frappe surpuissante pour tromper Rui Patricio, ils s'en sortent et ils ramènent les trois points, on va dire, de manière assez... pas surprenante, mais c'est vrai qu'on était quand même en fin de match et plus personne ne pensait que le Napoli pouvait s'en sortir. Et ça a montré beaucoup du mental qu'avait cette équipe-là. Et le deuxième, toujours en championnat, c'est la victoire à Milan. Pareil, pas un match incroyable avec Milan quand même qui domine les débats largement, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Et c'est vrai que le Naples arrache un penalty, Giroud égalise. Et en fin de match, sur un centre de Mano Rui, t'as Simeone, un peu le super sub de la saison. Alors, il a eu des blessures, mais c'est vrai qu'il a quand même participé au titre de Naples. Et ils arrachent les 3 points à Milan encore une fois. Et c'est vrai qu'il y a eu une espèce de passage de témoin, même si voilà, le combat a encore duré, on va dire, quelques semaines après. Mais voilà, pour moi, en tout cas, c'est les deux matchs-là où je me suis dit, c'est évidemment pas les matchs les plus éclatants, c'était pas des démonstrations, mais c'est parfois dans les difficultés ou dans des moments plus compliqués, on en a vu la dernière à Naples, où parfois ils ont un peu cédé assez facilement, notamment ce match à Empoli qui avait fait date, on avait beaucoup parlé dans Cacho et Pépé la saison dernière. Mais voilà, ces deux matchs-là qui étaient pas dingues, pour moi, là, je me suis dit, eh ben, cette saison, c'est peut-être celle de Naples et ça l'a été. Et toi, Yoann, du coup, quel était ton petit coup de cœur ou ton gros coup de cœur de la saison, si t'es un joueur ou un match comme moi?
Alors, je suis parti sur un match aussi. Ouais. En fait, j'ai eu deux souvenirs immédiats. Le premier, c'était en championnat. C'est évidemment un match qui avait fait beaucoup parler. C'est le 5-1 contre la Juve, qui avait été une démonstration totale en fait, et on sait évidemment la rivalité entre le Naples et la Juve et tout ce que ça comportait, surtout que ça venait après peu de temps après la première défaite en championnat contre l'Inter sur la pelouse de l'Inter, c'était au tout début janvier. Mais en fait, je crois que j'ai choisi le moment peut-être le plus impressionnant pour moi dans la saison, et c'est en Ligue des Champions, c'est en tout début de saison, le 4-1 contre Liverpool. Ce match-là, en fait, c'est bizarre, mais c'est presque un témoin de ce qu'a été la saison de Naples et ce qu'a été la saison de Liverpool. Certains diront que Naples a battu, on l'a vu après, un Liverpool qui n'était pas génial, possible, évidemment, mais ça n'en réduit pas moins la qualité, l'expression collective, la domination de l'équipe de Spalletti sur Liverpool. Dans un style un petit peu différent où le Napoli avait moins le ballon que d'habitude. On sait que c'est une équipe qui aime beaucoup la possession, qui aime avoir le ballon, qui le confisque et qui développe ses attaques placées avec le ballon. Et là, contre Liverpool, ils avaient un peu plus laissé le ballon et beaucoup plus piqué en contre, même s'il y avait eu des buts qui étaient aussi arrivés sur des phases construites, beaucoup plus construites et sur des phases de, on va dire, avec un tempo plus lent de construction. Mais j'ai des flashs de ce match-là où, en fait, Trent Alexander-Arnold, il sait plus où il habite, où le milieu de terrain de Liverpool est totalement mangé par celui de Naples, où tu as un Kvaratskhelia qui fait un match colossal, où tu as des joueurs qui sont à un niveau de performance assez extraordinaire. Et même, tu vois, par exemple, on se souvient de ce match-là pour le score, on se souvient plus que Osimhen avait raté un penalty, on se souvient plus que Osimhen était sorti blessé en première mi-temps et Simeone était rentré et 3 minutes après il avait marqué. Voilà, c'est pour moi en termes d'expression collective, ouais, d'impression de domination totale sur l'adversaire, avec la qualité de l'adversaire évidemment, c'est le match qui m'a le... Je crois que c'est le match qui m'a le plus marqué
Elle avait marqué Klopp aussi, hein. Tu te rappelles, Klopp, ouais, qui avait dit que c'était la meilleure équipe d'Europe. Et puis après, il y avait cette victoire hein, contre l'Ajax à Amsterdam, c'était 6-1, il me semble, ou 6-2, il me semble que c'était 6-1.
Je crois que c'est 6-1 aussi, ouais.
Ouais, c'est 6-1, donc tu vois, alors certes, bon, l'Ajax, tu le sais mieux que moi, voilà, et peut-être dans un moment peut-être plus compliqué, mais ouais, aller gagner 6-1 à Amsterdam quand même.
Non, mais c'est jamais anodin.
Voilà. Faut dire que la phase de poule du Napoli en Ligue des Champions a vraiment été assez impressionnante parce qu'on a vu aussi la dimension européenne. Alors certes, elle s'est arrêtée contre Milan en quart, mais en tout cas, en début de saison, on peut dire que ça annonçait un peu la suite des choses. Donc, c'est certain que ce match un peu contre Liverpool, contre un adversaire quand même qui était finaliste récent de la C1, voilà, tu pouvais comprendre quand même que cette saison, le Napoli, c'était une équipe redoutable et qui pouvait aller très loin en Serie A, voire en Ligue des Champions.
Mais tu sais, Guillaume, je réfléchis, et est-ce jusqu'où il faudrait remonter pour avoir une équipe italienne qui te donne un tel sentiment de puissance face à un gros européen? Parce que c'est pas juste, tu vois, l'Ajax 6-1, tu peux trouver l'adversaire.
Oui, oui, oui.
Mais là, le 4-1 contre Liverpool, avec le sentiment qu'il y en a eu 4, mais il y aurait pu en avoir 8, en fait, dans ce match-là, tellement ils étaient forts et costauds. Tu vois, si on prend les récentes performances en Ligue des Champions des clubs italiens, j'ai du mal à trouver une performance aussi...
Non, je suis en train de repenser un peu à la You finaliste, enfin aux deux You finalistes avec Allegri, ouais, s'il y a eu des matchs éclatants. Mais Disons que là, c'était vraiment un combo entre évidemment le score, qui est une chose, mais c'est vrai que l'expression et le match en soi, la prestation, le contenu, c'était vraiment quelque chose. C'était comme une déflagration, tu sais. Comme une déflagration en Europe et en Italie, parce que quand tu gagnes comme ça sur la scène européenne, même les autres clubs italiens se disent, bon, bah, cette saison de Napoli, c'est quand même quelque chose. Et ça te donne aussi à toi-même de la conviction, bah, en te disant que si tu peux faire ces matchs-là en Europe, tu peux évidemment les reproduire en championnat. Mais là, comme ça, c'est certain que faudrait réfléchir plus longuement.
Ouais,
même du côté de la Juve d'Allegri. D'ailleurs, on peut demander aux auditeurs, hein, qui ont plus de temps que nous pour regarder si eux, ils ont des, même l'Inter, même, alors Milan, c'était il y a plus longtemps. C'est vrai que.
Non, mais tu vois, par exemple, truc tout bête, mais le Roma-Barça 3-0. C'est évidemment une super performance, mais t'as pas ce sentiment-là d'un club italien qui écrase son adversaire. C'est pas le cas, ouais. Le Roma-Barça, c'est pas ça le match.
Et surtout, c'est un match retour avec le résultat. Enfin, tu vois, c'est compliqué, c'est un contexte totalement différent parce que t'es dos au mur, tu sais ce que tu dois faire pour te qualifier. C'est évidemment une performance incroyable, mais c'est totalement, c'est pas du tout le même contexte que cette victoire-là contre contre Liverpool. Donc ouais, c'est compliqué, mais en tout cas, c'est une bonne question. Donc, si les auditeurs, auditrices ont des idées, n'hésitent pas à nous le dire sur Twitter et sur les autres plateformes. Mais c'est vrai que c'est une bonne question.
Alors, Guillaume, on va donner quelques chiffres de ce Scudetto, de ce troisième titre du Napoli, qui d'ailleurs, dans le palmarès, entre guillemets, du championnat d'Italie, rejoint la Roma avec trois titres également, dans les clubs qui comptent aujourd'hui. Donc, titre remporté à 5 journées de la fin. Ce qui est un co-record, entre guillemets, parce qu'il y a d'autres clubs qui avaient réussi cette performance-là, mais on n'a pas fait mieux, tout simplement. 26 victoires, 5 nuls et 3 défaites au moment où on enregistre, on est le 9 mai. La première défaite, c'était sur la pelouse de l'Inter début janvier lors de la 16e journée. 70 buts marqués, pardon, meilleure attaque, 23 buts encaissés, meilleure défense. 62% de possession de moyenne, évidemment largement en tête de cette statistique en Serie A. 27 ans d'âge moyen, c'est plutôt la fourchette basse. Milan est à 26 ans et demi, par exemple. L'Inter est à 30 ans d'âge moyen. La Lazio est à 29 et demi. La Juve est à 28 et demi. La Roma à 28,4. Donc c'est vraiment fourchette basse de Serie A. Osimhen, actuel meilleur buteur du championnat à 5 journées de la fin avec 23 réalisations. Kvaratskhelia, meilleur passeur avec 10 passes décisives à 5 journées de la fin. Bref, quand on dit tout ça, mon cher Guillaume, ça donne un peu une image de, ouais, d'une domination absolue avec un titre en fait qui était déjà joué à la mi-janvier. J'ai regardé par curiosité, à la fin des matchs allés, 12 points d'avance sur le deuxième.
Non, mais Osimhen, on peut même rajouter qu'il a dépassé Georges Weah sur la totalité de ses buts en Serie A. Il a dépassé Samuel Eto'o saison 2010-2011 avec l'Inter du triplette. Donc, non, c'était évidemment une domination totale et j'en ai parlé aussi, tu sais, avec des collègues français. Et il y a vraiment le sentiment en Italie, et je pense même que tu seras d'accord, tu sais, vraiment de reconnaissance. Tout le monde, tous les supporters, tous les clubs reconnaissent la supériorité totale du Napoli cette saison. Il n'y a eu aucune contestation possible, tellement la démonstration de force a été totale. La vraie question, elle a été posée durant la pause pour le Mondial, où on se disait tous, est-ce que le Napoli peut tenir la deuxième partie de saison comme ça? Parce qu'on sait, on a beaucoup parlé avec toi, Johan, donc avec Pepe, on sait que le Napoli, voilà, c'est une ville volcanique, c'est une ville qui vit de ses émotions, un peu comme à Rome, et on se demandait, est-ce qu'elle arrivera à gérer, par exemple, le jour où arrivera la première défaite? Est-ce qu'elle arrivera à gérer ce moment-là, cette équipe-là, qui avait montré tant de belles choses sur la première partie de saison? Et comme un symbole, elle est arrivée dès la reprise contre l'Inter.
Exactement.
Une défaite en plus assez méritée. L'Inter avait vraiment dominé Naples. Et c'est vrai que tout de suite, on a eu la question. Et la réponse arrivait directement parce que le Napoli s'est repris immédiatement. Il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu de mauvaise passe, il n'y a pas eu de spirale négative. Il y a vraiment une équipe qui a appris de ses erreurs passées, qui a acquis un mental aussi grâce à Spalletti, qui est parvenu, on va dire, à calmer les choses et peut-être à entrer moins, tu sais, dans ce côté un peu folklorique que parfois elle a et qu'il a toujours, on l'a vu cette saison. Mais voilà, peut-être que lui aussi est parvenu, on va dire, à se modérer et à dégager de la sérénité, de la tranquillité. Alors, certes, une équipe qui avait beaucoup de points d'avance, tu l'as dit, mais voilà, c'était pas facile. À un moment, on s'est quand même dit, Naples peut vaciller. Et finalement, quand même, ils avaient tellement de points d'avance et qu'ils ont su quand même gérer tout ce qu'ils avaient acquis au préalable. Donc voilà, c'était vraiment la question qu'on s'est tous posée. Tous les médias italiens l'ont fait. Et c'est vrai qu'au retour, voilà, il s'est défait contre l'Inter et ça a été parfaitement géré dans l'après. Et tu l'as dit, tous les chiffres vraiment montrent et prouvent la démonstration de force. Moi, du collectif, évidemment, que le duo Osimhen-Kvaratskhelia sort du lot. On en parlera tout à l'heure quand on donnera un peu notre joueur de la saison. C'est vraiment une performance collective qui ressort de cette saison-là. C'est vraiment la victoire du jeu, la victoire des idées, la victoire du projet, Johan aussi, on le rappelle. Ouais. L'été dernier, je ne sais pas qui aurait misé chez la victoire de Naples quand Mertens est parti, quand Koulibaly est parti, quand Fabien Ruiz est parti, quand Espina est parti, pour des recrues comme Kim. Comme Kvaratskhelia qui n'était pas hyper connu à l'époque, comme Oliveira, avec une masse salariale qui a baissé de 33%, qui a 70 millions aujourd'hui. Une nouvelle politique économique, nouveau projet. Et c'est vrai que les deux derniers vainqueurs de la Serie A, que ce soit l'AC Milan, il y a deux saisons maintenant, et celle en cours, Naples, on a quand même deux champions avec quand même des projets, on va dire, globalement similaires. Avec des idées, pas des dépenses folles. Donc vraiment, voilà, il y a vraiment une espèce de virage idéologique pour moi qui est entamé par Naples et Milan. Et je trouve que c'est aussi un vent de fraîcheur, Johan, pour la Serie A et les autres clubs italiens. Un peu la marche à suivre.
Alors tu parlais de la défaite à l'Inter qui aurait pu être un point de bascule, oui, au retour de la Coupe du Monde. Juste derrière, ils ont enchaîné 7 victoires en championnat. Donc ils ont, dont le 5-1 contre la Juve dont je parlais tout à l'heure, dont une victoire 2-1 contre la Roma. Donc ils ont très très bien géré ce petit moment de difficulté, vraiment très léger, puisque c'était un seul match. Et ce qui renforce d'ailleurs le côté de domination, c'est que t'as à aucun moment dans la saison, tu n'as eu de moments de très grande difficulté en fait. T'as pas enchaîné de défaites consécutives, t'as plutôt enchaîné les victoires d'ailleurs consécutivement que les défaites. Il n'y a pas eu de moment où il y a eu une alerte maximale, il y a eu des blessés, mais finalement, quand tu as un projet de jeu clair et établi, bien structuré, où tu recrutes bien pour que les joueurs s'adaptent facilement à ce système-là, où l'entraîneur travaille beaucoup avec les individualités pour les faire entrer dans le collectif, c'est pas une ou deux absences qui vont te gêner dans l'élaboration du jeu, dans tes performances, etc. On l'a vu, Osimhen a encore été absent cette saison, hein, Guillaume, comme chaque année un peu depuis qu'il est arrivé à Naples, il a des moments où il est absent, mais Simone a fait un super intérim, il a marqué des buts. C'est, quand c'était pas Simone, c'était Raspadori qui a été aussi parfois aligné en poste de numéro 9. Raspadori en faux numéro 9, on va dire, d'ailleurs, plus que numéro 9, mais voilà, il y a eu des moments où d'autres joueurs ont été absents, etc. Mais la force du collectif du Napoli, quels que soient les joueurs alignés au final, que ce soit Politano ou Lozano, que ce soit, je sais pas, que Zielinski a eu un petit moment de creux, on a mis Elmas, puis quand Elmas y rentrait en cours de match ou qu'on faisait appel à lui, il était très bon. Enfin, on peut, tu vois, par exemple, Juan Jesus qui a joué plusieurs matchs quand Kim a eu des petits problèmes, Juan Jesus a été bon. Qui aurait dit que Juan Jesus pouvait avoir ce niveau-là aujourd'hui, oui, après l'expérience à la Roma? Donc, qui aurait pu dire que Mario Rui aurait atteint ce niveau-là quand on sait d'où il vient lui aussi, encore une fois, après un passage compliqué à la Roma? Le Napoli, je trouve, tu sais, il y a eu un... On parlait tout à l'heure, tu sais, du sentiment de domination sur un match face à un gros contre Liverpool. La Juve d'Allegri dégageait une force qui était plus une force acquise à travers l'ADN. Presque plus une force mentale, une sorte d'auto-conviction, que même dans les matchs qui étaient mauvais, la Juve l'emporterait. Et ça, c'était une sorte de domination aussi, quelque part. C'est pas du tout la même domination que ce qu'on a vu du Napoli, mais c'était une domination aussi où tu te disais, de toute façon, à la fin, c'est la Juve qui va remporter le championnat, et au final, on avait raison, puisque la Juve en a remporté 9 consécutivement.
C'est une autre sorte de domination.
Voilà. Si on doit penser à une domination comme ça par le jeu, là encore, si on doit remonter dans les années, il faut remonter à très loin, en fait. Parce que même on peut prendre l'Inter de Mourinho qui ressemblait beaucoup plus en termes de typologie de domination à la Juve d'Allegri qu'au Napoli de Spalletti. Même la Roma de Capello en 2001, c'est la même chose. Le Milan d'Ancelotti au final, c'est un peu entre les deux, je trouve.
On aurait pu avoir la Roma de Spalletti si elle avait été championne, l'esprit.
Je suis d'accord.
Si elle l'avait été, ouais. Tu vois, un peu dans l'esprit.
On revient au même entraîneur, bizarrement.
Oui, bien sûr.
Ou tu sais, qui aurait pu avoir ce sentiment-là, mais il est tombé sur beaucoup plus fort, et c'était la domination, justement, Allegri, c'est le Naples de Sarri. Le Naples de Sarri qui fait 91, je crois, 91 ou 92 points.
91,
hein, c'est ça, hein, qui est merveilleux aussi à voir jouer, avait un peu ce sentiment-là, mais il était face à une Juve qui était en tel contrôle des émotions qu'au final, ils n'avaient pas réussi à gagner le Scudetto. Mais voilà, je trouve que, en fait, rarement, avec la position de départ du Napoli, un titre a été aussi mérité, en fait. Parce que le Milan, l'année dernière, évidemment que c'est un titre qui est largement mérité aussi. Mais le Milan, dans l'histoire du football italien, n'a pas la même position que le Napoli. Moi, je disais récemment à l'antenne que, moi, un tel exploit, entre guillemets, parce que moi, je considère aujourd'hui que ce qu'a fait le Napoli de Spalletti, c'est un exploit. Pour moi, il fallait remonter à la Samp de 91, et le titre gagné par la Samp des Mancini, des Viali, etc. Parce que on peut reprendre, parce que les trois clubs du Nord, ils ont pris quasiment tous les titres depuis ce moment-là. Je crois que depuis 92, il n'y a que 2000 Lazio et 2001 Roma qui ont échappé aux trois clubs du Nord. Donc déjà, ça pose un peu la performance du Napoli. Et ensuite, il ne faut pas oublier quel joueur avait Capello à la Roma et quel joueur avait Eriksen à la Lazio en 2000. Là, on est un peu... Moi, je trouve que le Napoli part plus loin que les clubs romains en 2000 et en 2001. Donc, vraiment, tu sais, il y a le fameux débat du mérite ou du pas mérite dans le football. Moi, j'ai un peu de mal avec la notion de mérite, mais je vais aller un peu au-delà de ce que je pense de cette notion-là. Mais vraiment, je trouve que cette saison, le titre est pour le coup, je vais reprendre ce mot-là, même si je ne l'aime pas, mérité.
Mais d'où le sentiment, comme je te disais, il y a d'unanimité, vraiment, ça faisait très longtemps. Alors certes, il y a toujours eu, tu sais, les messages sur les réseaux sociaux, des clubs entre eux, mais là, vraiment, moi qui écoute aussi souvent les radios italiennes, comme toi qui lis la presse, il y a vraiment personne n'est allé contre ce Scudetto-là tellement il a été dominé, tellement il a été mérité. Et tellement elle a été mérité à travers le jeu. Surtout la différence, c'est que vraiment le jeu, cette déflagration dont tu parlais contre Liverpool, elle a été continue tout au long de la saison. Et tu parlais de la rivalité, on va dire un peu nord-sud, on va dire du nord au Mezzogiorno. Et il faut rappeler quand même un chiffre qui est assez imposant, c'est que si tu prends la Juve, l'Inter et l'AC Milan, c'est quand même 74 titres cumulés à E3. Si tu prends dans l'histoire, on va dire, du championnat, les seuls titres, je parle, qui ont échappé au Nord, t'as évidemment les trois de la Roma et les deux de la Lazio. Après, t'as celui de Cagliari, de Didieri, en 70. Et t'as les trois, maintenant, du Napoli. Donc, t'as quand même, tu vois, un contraste assez fort entre le Nord et le Sud. Donc, c'est aussi une victoire plus symbolique, on va dire, même de manière un peu générale, parce que c'est une hégémonie de plus de 20 ans maintenant qui s'arrête entre les victoires de la Juve, les victoires de l'Inter et les victoires du Milan. Donc voilà, c'est un titre de champion vraiment hautement symbolique, tant par le jeu, autant que même par sa dimension, on va dire, de manière plus, comment dire, plus concentrée par rapport à la géopolitique. Donc il y a vraiment quelque chose de... Il y a une fierté évidemment du Sud, mais voilà, c'est quelque chose qui ne fait vraiment aucun débat pour ceux qui n'ont pas la chance comme nous de vivre un peu l'Italie, la presse, les radios. Vraiment, en Italie, j'ai pas entendu un témoignage contre ce Napoli-là. Et ça en dit long quand même dans un pays où le clubisme, tu le sais, est très important. Quand tout le monde appelle les radios pour dire écoutez, bravo Napoli, tu sens quand même qu'il y a un sentiment de domination de Naples et du coup les autres qui vraiment se sont sentis impuissants face à la bande à Spalletti.
Alors Guillaume, qui dit Scudetto, dit célébration par la suite.
Oui.
Et tu sais, c'est, je sais pas si t'es comme moi, mais ça fait un moment que j'essaie de réfléchir à ce qui pourrait se passer, ce que pourrait être le visage de la ville en cas de titre. Et bon, ça a répondu à nos attentes, je pense. Alors, c'est un titre qui a été fait en deux fois. La première fois, c'était au soir de la 33e journée à Udine, avec le match nul du Napoli, qui a donné le titre au club. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est un truc que j'ai déjà dit à la radio, mais je vais quand même le dire ici aussi, pour tous nos éditeurs et auditrices. J'avais dit, je remercie la Lazio d'avoir gagné la veille contre Sassuolo. Tu sais, c'était un peu la condition pour que Naples ne fête pas le titre à l'hôtel, en fait, tout simplement. Il fallait que la Lazio batte Sassuolo, ce qu'ils avaient fait, difficilement, mais ils l'avaient fait quand même. Et je trouvais ça bien qu'ils l'aient fait, parce que je suis effaré que la quatrième ligue en Europe, qui potentiellement peut être bientôt troisième ligue en Europe, au classement UEFA, soit dans l'incapacité de nous pondre un calendrier où le club qui joue pour le titre et son principal, j'allais dire concurrent, mais c'est même pas ça, ils ont même pas été concurrents, la Lazio, mais on va dire le club qui était le plus proche d'eux au classement, ne puisse pas jouer en même temps, alors que les deux clubs n'ont aucune compétition européenne et n'ont aucune demi-finale de Coupe d'Italie ou finale de Coupe d'Italie. Je trouve ça assez lamentable. On pourra me sortir toutes les excuses qu'ils veulent. Je trouve que, tu vois, pourquoi je dis que merci la Lazio d'avoir battu Sassuolo, c'est parce qu'en fait, si la Lazio n'avait pas battu Sassuolo, les images du titre qu'on aurait eu du Napoli, c'est pas sur le terrain, c'est pas avec les supporters, ça serait venu dans un deuxième temps, bien entendu, mais ça aurait été à l'hôtel. Déjà, pour des questions simplement presque business, en fait, Guillaume. Tu sais, la Serie A, ils n'arrêtent pas de nous dire « Ah, on travaille sur les droits télé parce qu'il faut qu'on les vende mieux à l'étranger, il faut qu'on les vende mieux aussi en Italie, ce qui ne sera pas évident. Il faut qu'on développe les recettes liées aux droits télé, etc. » Mais en fait, si le Napoli avait fêté son Scudetto à l'hôtel, la Serie A n'aurait été propriétaire d'aucune image qui aurait fait le tour du monde. Aucune image, parce que c'est le Napoli qui aurait réussi à communiquer avec leurs équipes de production, avec les équipes TV. Peut-être qu'il y a un reporter de Sky qui aurait été admis, ou de DAZN, par exemple. Mais la Serie A aurait été propriétaire, ou ses diffuseurs, d'aucune image exclusive de la fête à l'hôtel. Première chose. Deuxième chose, quand tu veux valoriser ton produit, parce que tu estimes qu'il faut mieux vendre tes droits télé, bah commence par valoriser les moments les plus importants d'une saison de ton produit. Les moments les plus importants, c'est la fête du titre. C'est comme ça, c'est ce que les gens veulent voir, c'est la fête, c'est l'enthousiasme, c'est les rires, c'est les larmes, c'est les joueurs qui sont dans un état pas possible, c'est la communion avec les supporters, etc. Si tu es dans l'incapacité, encore une fois, je le répète, d'organiser deux matchs en même temps, du premier et du deuxième, pour s'assurer que, en cas de titre, les joueurs puissent fêter avec leurs supporters, je trouve que c'est un grand signe de défaillance de la Ligue. C'est un grand signe aussi de non-compréhension des enjeux médiatiques, de l'instant, du moment Scudetto. Parce qu'encore une fois, même ne serait-ce qu'au niveau business, je le répète, la Ligue n'aurait eu aucune belle image propriétaire du moment du Scudetto, et je trouve ça lamentable.
Alors toi, tu penses que c'est dû aux diffuseurs? Parce que toi, les auditeurs peuvent te poser la question. Est-ce que tu penses que c'est dû aux diffuseurs? Bon, ce qui est forcément probable, parce qu'on le sent en Italie, c'est... Alors, c'est co-diffusé entre DAZN et Sky, mais on sait évidemment que voilà, eux ont probablement leur dernier mot à dire. On sait que le préfet aussi de Naples et d'Udine, voilà, a eu beaucoup de discussions pour essayer de décaler les matchs. Voilà, on sent qu'il y a eu quand même un enjeu politique, un enjeu sportif.
Non, mais alors en fait, l'histoire des préfectures, etc., très sincèrement, regarde Guillaume, qu'est-ce que ça aurait changé pour la préfecture de Rome que le Lazio Sassuolo se joue mercredi soir ou jeudi soir?
Non, mais moi, là-dessus...
Strictement rien. Ouais,
bien sûr.
Deuxième chose, les diffuseurs. Si tu es une ligue et que t'es pas foutu de faire comprendre à tes diffuseurs que les plus belles images... elles seront sur le terrain et pas à l'hôtel. Est-ce que tu penses que DAZN, qui diffusait le match, je crois, le match du Napoli, est-ce que tu penses que DAZN aurait fait la même audience si le Napoli avait été sacré sur le Udinese Napoli, si le Napoli avait été sacré la veille à l'hôtel?
Ah non, bien sûr.
Donc, c'est même pas dans l'intérêt des diffuseurs de faire ça. L'intérêt des diffuseurs, c'est d'avoir les plus belles images possibles pour qu'elles tournent dans le monde entier et qu'on dise « Oh là là, regardez, c'était chouette la fête sur DAZN. Tout le monde a vu les supporters du Napoli fêter avec les joueurs, etc. Regardez les belles images, tout est brandé DAZN, mis sur les réseaux sociaux, etc. etc. » Donc en fait, que ça soit la Ligue, les diffuseurs, les préfectures, il y a zéro excuse pour la programmation ridicule qu'ils nous ont offert sur cette fin de saison. Et heureusement, vraiment, je le dis encore une fois, merci à la Lazio d'avoir battu Sassuolo, parce que sinon, on aurait eu des images vraiment bidons.
Mais d'ailleurs, le supporter de Naples était content. Hein,
bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça, tu vois. Mais justement, ça doit être un marqueur. La Ligue devrait comprendre ce genre de truc. Même les supporters de Naples voulaient que la Lazio batte Sassuolo. Ils voulaient pas. C'est-à-dire qu'ils voulaient que leur premier poursuivant gagne le match. Tu te rends compte du truc ridicule dans lequel on est? Donc bon, bref, ça c'était juste pour en parler un instant, parce que vraiment ça m'a chauffé pendant plusieurs jours de voir que
on le sent, ouais,
que cette ligue ne comprenait finalement rien à rien. Bref, Guillaume, parle-nous de la fête dans Naples jusqu'au bout de la nuit.
Écoute, folie. Alors, évidemment, les feux d'artifice, on a vu les vidéos sur les réseaux sociaux. Alors, on parle de nuit, mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'amis à Naples qui n'ont pas dormi du tout. C'est des messages à 6 heures, tu vois, quand moi, je me lève, eux, allaient se coucher. Enfin, voilà, c'était évidemment l'explosion d'une attente de 33 ans. C'est vraiment une ville. J'ai eu la chance d'en parler, tu sais, avec Ottavio Bianchi, qui est le premier entraîneur à avoir ramené le titre à Naples, qui, lui, me racontait un peu les festivités en 87, qui me disait que lui, alors, quelqu'un de très très solitaire, lui voulait pas forcément fêter ça, et à l'époque le président Feldlin était venu le chercher à l'hôtel quasiment de force pour l'emmener. Il me disait mais moi dans le taxi je transpirais comme jamais j'avais transpiré durant la saison, tellement il y avait de gens, les rues étaient bloquées. Il parlait évidemment des fameuses trichornes, des étendards accrochés par les Napolitains. En fait, il m'expliquait vraiment que Naples, c'est dans ces moments-là un patrimoine culturel, une fantaisie qui s'exprime. Parce que pour les Napolitains et pour Naples, on le sait, mais ça, je vais l'entendre d'un protagoniste, il me disait, le football, c'est vraiment, tu sais, un vecteur social, c'est quelque chose, voilà, qui rassemble les gens. On peut aussi préciser, Johan, que contrairement à beaucoup de villes en Italie, la ville de Naples ne compte qu'un club. Ça peut paraître bête, mais ça joue quand même. À Rome, il y en a deux. À Vérone, il y en a deux. À Milan, il y en a deux. À Turin, il y en a deux. Naples, c'est vraiment une ville qui vit pour le Napoli. Et c'est vraiment, Ottavio Bianchi qui me disait, c'est vraiment, voilà, l'expression la plus totale de la fantaisie des gens. Et après 33 ans d'attente, honnêtement, Johan, on n'a pas été déçus de ce qu'on a vu, parce que, voilà, c'est vraiment l'image de la ville. Une ville chaleureuse, avec des gens qui t'accueillent les bras ouverts. Et alors moi j'y suis allé une ou deux fois à Naples, mais tu vois, d'en parler avec quelqu'un qui a vraiment vécu sur place et qui a vécu ça comme lui, il m'a vraiment transmis ce que lui avait ressenti, et ça m'a quasiment ému, parce qu'il avait ce petit tremblement dans la voix, tu sais, en disant, mais moi Naples, je suis vraiment tombé amoureux de cette ville, parce que c'est quelque chose de très chaleureux, c'est quelque chose de quotidien. Et il me disait, dans ces moments-là de festivité totale, il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus rien, tout le monde se mélange pour fêter la même chose. Et c'est vrai que vivre des festivités à Naples comme on les a vécues, comme on les a vues, même par procuration parce qu'on était loin, bah c'est quelque chose quand même qui te saisit, parce que tu sens que c'est vraiment un amour le plus pur, le plus total qui se dégage. Enfin, du moins, voilà, c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti. Et avoir cette discussion-là avec Ottavio Bianchi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que représentait vraiment la ville de Naples, pas seulement en tant que foot, mais tu sais, vraiment en tant que patrimoine culturel. Il me disait, Naples, c'est un théâtre vivant chaque jour. Et j'ai trouvé ça assez marquant.
Guillaume, on va s'intéresser aux significations de ce Scudetto. Oui. Tu as commencé à en parler. Tu vois, moi, c'est un truc que j'avais évoqué assez tôt dans la saison, bon, quand on a compris que Naples allait être champion, c'est-à-dire à la 19e journée, en gros, j'exagère un peu, mais il y avait quand même 12 points d'avance, parce que on a beau adorer le football italien, Guillaume, on l'aime d'amour, clairement, il y a aussi beaucoup de choses qui nous agacent, et notamment le côté chouinerie en permanence de nombreux présidents et entraîneurs sur... c'était mieux avant, puis avant nous on avait toutes les stars du monde qui venaient jouer dans notre championnat, on avait Batistuta, on avait Zico, Platini, Boniek, Falcao, les Rulit, Van Basten, Rijkaard, on peut continuer comme ça jusqu'à pas d'heure. Et maintenant, voilà, le redimensionnement du championnat d'Italie, on n'est plus les meilleurs, et blablabla, bref. Et moi, j'avais dit, j'espère que le Napoli va être champion. C'est même pas une histoire de supporter tel club ou pas tel club. C'est que j'aime quand on prouve par A plus B que tous les gens qui se sont enfermés dans une posture de victime... D'ailleurs, c'est un calcul que font ces clubs-là. Hein. C'est pour souvent essayer de justifier leur médiocrité, les mauvaises décisions prises au plus haut niveau du management, etc. Mais j'aime quand le Milan montre que tu n'as pas besoin d'avoir la plus grosse masse salariale du monde, tu n'as pas besoin d'avoir de stars dans ton effectif pour être champion. J'aime quand Napoli fait la même chose un an plus tard, avec même encore plus de force, je trouve, que le Milan. Il faut quand même dire que ces deux clubs-là étaient au moment du Scudetto, donc le Napoli cette saison et le Milan l'année dernière, hors des trois plus grosses masses salariales de Serie A. Je donne un chiffre qui est assez marquant. La masse salariale du Napoli cette saison, c'est plus de la moitié moins de celle de la Juve. Ok, la Juve, c'est 160 millions d'euros. Le Napoli, c'est 71 millions d'euros. L'Inter, c'est 125. Je ne sais pas si tu as les chiffres en tête, Guillaume, mais je crois que l'Inter, c'est 100... ouais, 120, 125, quelque
oui,
chose comme
dans
ça.
Oui, c'est dans ces deux-là.
Et ensuite, je crois que c'est le Milan qui a un peu augmenté sa masse salariale avec le Scudetto, qui doit être à 85, 86, quelque chose comme ça. Donc le Napoli, je crois, et non, le Milan doit être un peu plus, et c'est la Roma, je crois, qui a 80 et quelques. Et derrière, le Napoli est cinquième sur les masses salariales.
Alors, si tu veux, Johan, j'ai les chiffres.
Vas-y.
Alors, Juve 160 millions, Inter 133,
okay.
Milan 87, troisième, Roma 86,
okay.
Et Naples 71.
C'est ça, voilà. Donc, tu es cinquième masse salariale, tu n'as pas de stars dans ton effectif. Au contraire, tu as dit adieu à pas mal de stars l'année dernière, notamment Koulibaly et Insigne parmi les deux plus connus, parce que bon, Mertens avait déjà un rôle un peu moins important dans l'effectif, même si c'est quand même le meilleur buteur de l'histoire du Napoli, il faut pas l'oublier non plus. Un élément commun entre les deux clubs, c'est l'importance du scouting. Si aujourd'hui le Milan peut compter sur des Maignan, des Kaloulou, des Leao, qui ont été des membres importants du Scudetto l'année passée, on pourrait même rajouter pour cette saison par exemple un joueur comme Malik Thiaw, qui vient de la D2 allemande. De l'autre côté, évidemment, Kvaratskhelia, Hakim sont assez emblématiques parce qu'ils sont remplacés les deux joueurs les plus emblématiques possibles de l'effectif du Napoli, Koulibaly et Insigne, comme je l'ai dit juste avant. Et puis tu sais, Guillaume, il y a un truc, j'adore faire ça en fait. Tu sais, quand certains dirigeants ou entraîneurs nous disent le fameux discours que je disais avant, oui, mais les stars, elles viennent plus chez nous. Les stars, elles vont en Première Ligue ou elles vont au Real, ou c'est dur d'attirer des joueurs de très gros calibre, c'est pour ça qu'on est mauvais en Coupe d'Europe, c'est pour ça que c'est dur de gagner le Scudetto, etc., etc. Je vais te donner la composition du Napoli, mon cher Guillaume, non pas avec les joueurs, parce que tu les connais par cœur, évidemment, mais avec leur club d'origine, le club avant Naples dans leur carrière, ok ?
Allez.
Donc, on va commencer Udinese, pour Meret,
ouais.
Empoli pour Di Lorenzo, Hellas Vérone pour Rachmani, Fenerbahçe pour Kim. Alors à gauche, il y a deux joueurs qui ont joué à peu près le même nombre de matchs, donc c'est soit Roma pour Mario Rui, qui est en échec à la Roma, remplaçant la Roma, ou Getafe pour Oliveira, d'ailleurs qui est une très bonne recrue, je ne l'ai pas précisé dans le scouting, mais lui en fait partie. On passe au milieu de terrain, Guillaume, Fulham pour Zambo, et Celta Vigo pour Lobotka. Le milieu de terrain le plus avancé, on va dire, alors là c'est pareil, c'est un peu c'est officiellement de l'Udinese, mais il venait de passer 2 ans en prêt à Empoli, Zielinski. À gauche, Kvaratskhelia, alors là c'est un peu, moi je considère entre guillemets que c'est le Rubin Kazan, parce que sans la guerre en Ukraine, il serait resté au Rubin Kazan et après il est retourné en Géorgie, mais bon.
Il n'aurait pas ce prix-là d'ailleurs.
Voilà, c'est ça.
Juste il racontait que, entre guillemets, grâce à la guerre.
Techniquement, voilà. C'est le club géorgien, mais je considère un peu plus quand même que c'est qu'il vient de Kazan quelque part, tu vois, mais ça change pas grand-chose. Osimhen, c'est donc Lille. Et à droite, Lozano, c'est le PSV, ou Politano, c'est un peu le même cas que pour l'arrière gauche, c'est l'Inter. Ok, remplaçant à l'Inter. Combien tu vois de gros clubs là-dedans, Guillaume?
Bah écoute, il n'y en a quasiment aucun. Hein,
voilà. Et derrière, tu peux ajouter Elmas qui vient de Fenerbahçe. Tu peux ajouter, on a déjà parlé du double latéral gauche avec Retafe. Il y a d'autres joueurs qu'on peut ajouter hein, comme ça qui viennent. Raspadori, c'est Sassuolo. Simeone, c'est l'Hellas Vérone.
Mais ça prouve, Johan, simplement que. Bah, simplement. C'est facile à dire, mais la programmation. Les idées, Je pense vraiment, tout à l'heure, tu vois, je disais que c'était un peu la voie à suivre, mais si les deux derniers champions, bah, comme tu l'as dit, ont un peu le même projet, on va dire que peut-être que Naples, tu sais, c'était plus radical. Vraiment, les derniers, ils ont dit, ils ont pris un virage, ils l'ont respecté, et ça a été d'une manière assez nette, assez tranchée. Et c'est pour ça aussi que c'est peut-être un peu plus marquant, mais en tout cas, grâce à, bah voilà, tout ce que tu viens de dire au niveau des clubs précédents, ça prouve quand même que, alors ça prouve aussi déjà que Spalletti, et ça on le savait, a toujours eu cette capacité à faire progresser ses joueurs. Et c'est vrai que, voilà, au-delà du personnage fantasque qu'il peut être parfois, il a vraiment cette capacité, alors évidemment, à mettre sur ses équipes, mais à faire progresser ses joueurs. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est vraiment la victoire d'un projet et des idées. Alors, on en parlera peut-être après, mais de savoir si un cycle peut s'ouvrir, et ça dépendra de beaucoup de facteurs. Mais c'est, moi, je partage un peu ce que tu disais sur le côté d'être content pour cette victoire de Naples. C'est vraiment la masse salariale, ça signifie quand même beaucoup. Ça veut dire quand même que tu surpayes pas des joueurs. Au contraire, tu as pris le parti de baisser ta masse salariale radicalement pour entamer quelque chose de peut-être plus long à démarrer. Et finalement, bah, tu te rends compte qu'au bout d'une saison, grâce à un entraîneur, grâce à un directeur sportif, grâce à une équipe qui joue, qui est collective, et bah, tu peux aller au bout des choses, tu peux gagner un titre. Un peu comme la saison dernière, entre Milan et l'Inter, au niveau du papier, dans l'effectif, il n'y avait pas photo. L'Inter était bâti pour conserver son titre malgré les départs de Conte, d'Hakimi et encore de Lukaku. Mais Milan est quand même parvenu à s'en sortir à la dernière journée, jusqu'à la dernière journée, avec un collectif plus fort. Mmh. Peut-être que l'Inter, sur le papier, était l'équipe la plus forte.
C'est évident.
Mais Milan est parvenu à exprimer le meilleur jeu et le meilleur collectif. Et c'est grâce à ça aussi que tu gagnes un titre. Et c'est pour ça que cette victoire de Naples, on le disait, elle est hautement symbolique pour le football italien aujourd'hui.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Guillaume, on peut pas revenir sur la saison du Napoli sans alors on l'a fait un peu en fil conducteur, mais sans évoquer Luciano Spalletti, évidemment. Spallettone, comme disait Mourinho en début de saison, en parlant à, je sais plus s'il avait dit Spallettone ou Lucianone, et je sais plus quel terme il avait utilisé exactement. Je crois que c'était à DAZN, interview croisée avec Spalletti, entre Spalletti et Mourinho. Mais honnêtement, on est sur moi je trouve que c'est une très belle récompense. C'est un peu, tu sais, la prime à la carrière. On sait que, oui, on en a souvent parlé, hein, Guillaume, que Spalletti était pris pour ce que j'appelle le premier étage de la fusée, souvent d'un projet. Mettre les bonnes bases, travailler le jeu, faire progresser les joueurs, valoriser des joueurs pour les revendre ensuite et augmenter petit à petit ta force de frappe financière, économique. On sait qu'il est incroyablement doué pour ça. Tu sais, ce qui est bizarre, c'est que, en fait, quand on me dit Spalletti, je crois que le premier truc qui me vient en tête, c'est même pas... Alors maintenant, ce sera sans doute ce Napoli-là. Mais avant, c'était même pas la Roma. Alors qu'il a eu... il a rien gagné quasiment. Enfin, il a gagné deux Coupes d'Italie et une Super Coupe, je pense. Ça doit se limiter à ça, je crois. Ce qui me vient en tête, c'est son Udinese, Guillaume. Au début des années 2000, tu sais, avec... les Giants, les Martin Jorgensen, les De Sanctis dans les buts, c'était pas une équipe incroyable, cette Udinese là. Kroldrup aussi derrière, un autre Danois. C'était pas une équipe incroyable, c'était pas une équipe formidable. Yakuinta, Jankulovski. Combien de joueurs de cette équipe doivent leur carrière à Spalletti, en fait? Parce que tout simplement, le football exprimé, ils avaient fait, alors je sais plus dans l'ordre, mais 6-7-4 ou 4-7-6 ou 6-4-7, je sais plus exactement, mais sur 3 saisons, il avait fini dans le top 7 en fait. Ils les avaient envoyés en tour préliminaire de la Ligue des Champions avec des joueurs qui n'étaient pas des cracks. Enfin, je veux dire, Iaquinta après l'Udinese. Et si Iaquinta va à la Coupe du Monde avec l'Italie, il peut dire merci au travail de Spalletti avant. Partout où il est passé, je trouve qu'il y a ce fil conducteur de développement des talents par la prédominance du jeu dans ses préceptes. Voilà, vouloir que son équipe exprime un certain type de football ambitieux, protagoniste, actif et non pas réactif, moderne dès le départ. En fait, il avait une modernité précoce, en fait. C'est-à-dire qu'il y a son football a très peu changé, en fait, à Spalletti, Guillaume, entre ce qu'il faisait à la Roma et aujourd'hui. Je vais pas dire qu'il avait 20 ans d'avance, mais pas loin, en fait.
C'est l'entraîneur le plus ancien à avoir gagné le Scudetto. Hein.
64 ans, c'est ça?
Ouais. Ouais,
c'est
ouais.
Ça m'a mis une claque, d'ailleurs, de savoir que. Non, mais tu rigoles, mais moi, tu m'aurais demandé l'âge de Spalletti, j'aurais dit moins de 60 ans.
Je suis d'accord, moi aussi, je crois.
Et ça m'a mis une énorme claque de voir qu'il avait 64 ans.
Et c'est vrai que, mais quand tu réfléchis et quand tu te poses deux minutes, c'est vrai qu'il est dans le paysage médiatique depuis tellement longtemps. Mais c'est vrai que physiquement, et ben là, c'est vrai qu'on dire qu'il avait plus de 60 ans, c'était compliqué. Mais évidemment, que je partage son avis, c'est un entraîneur. On a beaucoup parlé quand même hein, dans les saisons précédentes de Cacho Pepe par rapport à tout ce que tu viens de dire, au jeu, à sa manière de manager son équipe. Garachiel a dit cette saison où il a dit vraiment que lui arrivait d'un tout autre pays, d'un tout autre championnat, et Spalletti il a pris un peu son aile un peu comme un père et l'a guidé vers le foot italien. Et c'est pas donné à tout le monde partout où tu passes de pouvoir faire progresser chaque joueur, c'est-à-dire que tu prends vraiment le temps d'analyser, de voir les lacunes de chacun, les aspects où tu peux progresser. Donc, et en plus de tout ça, tu fais jouer ton équipe d'une manière toujours agréable. C'est très rare. Alors voilà, il y a eu quelques turbulences, on s'en souvient, avec à l'Inter, notamment sur la fin, mais c'est aussi un entraîneur qui a de la poigne. On s'en souvient. Alors, on va pas revenir sur l'épisode éternel de Totti, mais l'Inter avec Icardi, c'est aussi un entraîneur qui parfois, c'est aussi prendre le taureau par les cornes et montrer que voilà, lui aussi, c'est.
Lui aussi a de l'ego.
Exact. un très grand ego. Mais en tout cas, c'est vraiment, pour le coup, une récompense méritée. Un peu comme Naples, tu sais, tout à l'heure, Johan, on disait que Naples, tout le monde salue ce titre-là parce qu'il est mérité. Mmh. Pour l'ensemble, quand même, de la carrière de Spalletti, vraiment, ce Scudetto-là, il le mérite. Il l'a longtemps cherché. Il en avait gagné en Russie avec le Zénith. Mais là, vraiment, c'est l'avènement d'une carrière qui a toujours été quand même très haut. Moi, je m'en souviens, on en parlait à l'époque où il était à l'Inter, à l'époque où tu te souviens quand Pioli devait arriver à Milan, il y avait cette hésitation avec Spalletti. On disait, mais quand tu prends Spalletti, déjà, tu as toujours l'objectif minimum du top 4. C'est quelqu'un qui, quand il arrive sur ton banc, atteint toujours le top 4. Ça veut dire la Ligue des Champions quasiment automatique. Mmh. Mais il a souvent flirté, on se souvient à la Roma, le fameux Roma Samp que tu perds. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment content pour l'homme parce que ça reste un personnage qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais globalement, j'ai quand même l'impression qu'il est apprécié malgré ses déclarations parfois fantasques. Mais en tout cas,
son
pour
côté
l'homme,
très théâtral.
Voilà, très théâtral où tu as l'impression que tout est calculé à chaque fois. Ces grandes phrases parfois rhétoriques, on en a l'habitude. Mais c'est un personnage quand même du football italien dont on a besoin. Mais au-delà de ça, pour le jeu, pour tout ce qu'il a amené dans tous les clubs où il est passé durant toute sa carrière, c'est vraiment un Scudetto que lui méritait particulièrement.
Tu sais, Guillaume, tu as parlé de Pioli tout à l'heure. Comment dire ça? Je pense que ni toi ni moi, il y a 5-6 ans, on aurait pu dire que Pioli aurait gagné un Scudetto.
Jamais.
Et encore plus avec une qualité de jeu assez importante. Ou très développée même. Avec Spalletti, moi j'avais toujours le truc de « Ok, c'est un beautiful loser. » Mais tu te dis, s'il obtient le bon club au bon moment... Mais je pensais pas à Naples, tu vois. Je pensais plutôt à une équipe comme la Juve ou un Milan fort ou un Inter fort, ce qui n'était pas le cas quand il arrivait à l'Inter. De te dire, il a quand même tout ce qu'il faut pour gagner un titre, ce mec-là. Il a ce fil conducteur depuis plus de 20 ans maintenant, du jeu, de... Et attention, quand tu disais c'est top 4 minimum, c'est même... t'as raison d'utiliser minimum. C'est-à-dire que souvent, il va au-delà des objectifs fixés. Preuve en est encore avec le Napoli, où ils finissent troisième, je crois, la saison dernière, et premier cette saison. Vraiment, il y a quelque chose de... Tu sais, c'est un peu la sécurité sociale, Spalletti. En tout cas, la vision qu'on en avait à l'époque de la sécurité sociale, de moins en moins vraie, mais bref, c'est un peu l'idée de... avec lui, même s'il a un côté très agaçant, et moi je suis le premier à le dire, on en a parlé souvent, Guillaume, ici, du côté théâtral qui gonfle au bout d'un moment de la posture, du mec qui calcule la moindre phrase, ou tu sens qu'il n'y a rien de naturel en conférence de presse, etc. Évidemment que ça gonfle, mais en fait, à ce mec-là, t'es prêt à tout lui concéder, parce que quand tu vois ses équipes jouer, tu prends juste du plaisir, et au final, c'est aussi ce qu'on recherche, nous, quelque part, qui mangeons beaucoup de matchs. C'est-à-dire que si on avait que des entraîneurs qui jouaient comme Allegri, bon, bah, le plaisir serait un peu moins intense, en fait. Et je trouve que, tu sais, il a eu une phrase, lors de la cérémonie, là, contre la Fiorentina, où les joueurs, les membres du staff et Spalletti ont été appelés un par un. Et Spalletti a même eu le micro pour glisser quelques mots. Et où, tu sais, il a dit, je sais plus exactement la tournure exacte, mais je vais essayer de le résumer. Mais il avait dit, on m'avait dit que Naples était la ville des miracles. Si vous avez réussi à me faire gagner un Scudetto, imaginez les miracles que vous pouvez accomplir. C'est un truc comme ça. Je sais plus exactement, c'est pas parfaitement ça, mais c'est le sens de la déclaration de Spalletti. Et on a le sentiment qu'il a trouvé, ouais, son îlot de bonheur, en fait, à Naples. Et il faut espérer que ça continue. Il faut espérer que le Napoli réussisse encore de très belles performances. Pas simplement de bonnes performances, mais aussi de belles performances, parce que c'est ce qu'ils nous ont montré. Oui. Tout au long de la saison.
Et moi, tu sais, Johan, une dernière chose sur Spalletti, dont on n'a pas parlé, c'est que sa pause lui a fait du bien. Tu te souviens, parce que au départ de l'Inter, voilà, tout le monde rigolait parce qu'il était dans Séville, en Toscane, sur Instagram, vous pouvez voir les photos. Enfin, il a fait quand même une pause assez longue. Et je trouve, par exemple, contrairement à Allegri qui a eu la même pause, mais qui pour moi n'a pas profité, on va dire, pour mettre un peu à jour son fichier.
Ah bon?
mais en fait, tu vois, Spalletti, durant cette pause-là, eh ben, je trouve quand même qu'il... Alors évidemment, il le disait, il a suivi le foot, il a suivi les matchs, il a su couper quand il le fallait, mais il a aussi compris le virage un peu idéologique que prenaient les joueurs en ce moment et que prenait le football. Et pour moi, voilà, parfois, les entraîneurs, ils ont besoin de faire un peu un switch. Et cette pause-là pour Spalletti, pour moi, dans sa Toscane, a été bénéfique parce que lui a été capable de faire ce switch-là, justement. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui est invisible aujourd'hui, mais tu vois, de le rappeler, c'est quelque chose qui, pour moi, voilà, on va dire, l'a fait progresser. Voilà, vraiment, il a mis à jour son document d'entraîner, de management, et ça marche. Donc parfois, aussi savoir s'arrêter et regarder un peu ce qui se fait ailleurs, ça peut être bénéfique pour un entraîneur.
Guillaume, on va terminer cet épisode spécial Napoli par un coup de cœur. Alors, en tout début, on a ouvert par un coup de cœur général, le coup de cœur de la saison, quelque chose qui nous avait énormément marqué, auquel on repensait quasiment immédiatement quand on parlait de la saison du Napoli. Là, c'est plus spécifique, le coup de cœur, le joueur coup de cœur, très précisément. Je te propose de commencer, mon cher Guillaume.
Allez,
quel est
commence.
Le joueur que tu as envie de... Ah, je commence, moi ?
Écoute, j'avais commencé au début.
Alors, d'accord, je vais commencer.
À toi. Allez, honneur à toi.
L'idée, c'est de... C'est pas de donner le meilleur joueur, je préfère le préciser, ou le joueur le plus important... mais c'est vraiment un coup de cœur qui est quelque chose de très subjectif et personnel. Et moi, j'ai été évidemment très marqué par l'aroma de Spalletti. On a beaucoup parlé de cette équipe-là, qui ressemblait d'ailleurs un peu, Guillaume, dans la construction de cet effectif-là. Souviens-toi, quand je t'ai fait la liste des clubs, là, tu te souviens
Oui.
Souviens-toi, Perrotta, il venait d'où Rodrigo Taddei, il venait d'où Amantino Mancini, il venait d'où Mexès, il venait d'où? Cassetti, il venait d'où? Tu vois, c'est quand même une constante aussi, hein, mine de rien. Donc voilà. Et dans cette équipe-là, et je ne l'ai pas cité volontairement pour le citer maintenant, il y avait un petit milieu de terrain chilien qui a fait partie des coups de cœur, moi, de ma passion pour le football italien, David Pizarro. Et donc, forcément, je ne peux pas ne pas citer Stan Lobotka. Voilà, je trouve que c'est la compie conforme de Pizarro. On connaît l'importance du 6 devant la défense dans les équipes de Spalletti pour à la fois avoir la qualité technique suffisante pour orienter le jeu, pour avoir une première construction propre, à la fois sur de la passe verticale mais aussi horizontale, pour avoir l'intelligence de savoir quand lâcher le ballon rapidement, quand le garder, quand jouer en avant, quand jouer vers l'arrière, quand il faut calmer les choses, quand il faut reprendre un temps de construction parce que l'équipe en face est bien en place, quand il faut aussi être en capacité de sortir du pressing adverse si tu as un adversaire qui vient te presser très haut, ben, un joueur comme Lobotka ou comme Pizarro à l'époque, avec ses feintes de corps, avec ses mouvements très particuliers, ses extérieurs du pied, sa conduite de balle pied droit, pied gauche, intérieur, extérieur, est en capacité de gérer tout ça. Je trouve que Lobotka est sans doute le joueur le plus représentatif de ce que fait Spalletti depuis 20 ans, comme l'était Pizarro d'ailleurs, c'est-à-dire à ce milieu de terrain capable de tout faire, qui est pas le plus... que tu mets dans d'autres clubs et où il ne réussira pas. C'est pas le joueur le plus physique, c'est pas le joueur le plus capable d'aller mettre des buts. C'est pas ce type de joueur-là, mais c'est un joueur extrêmement important et il a des caractéristiques bien précises qui font que je pense qu'il ne peut pas s'imposer partout, comme Pizarro d'ailleurs à l'époque. Mais voilà, si j'ai un joueur qui m'a donné un plaisir immense cette saison, et j'ai cette sensibilité-là, moi, pour les milieux de terrain depuis toujours, Stan Lobotka est vraiment un digne représentant de la domination totale du Napoli. Il a bouffé un nombre incalculable de milieux de terrain adverses. Il y a beaucoup de joueurs qui ont essayé de venir le presser très très haut. Très peu ont réussi. Et vraiment, je trouve que c'est un parfait joueur symbole du Scudetto du Napoli.
Alors écoute, moi j'ai choisi, alors comme tu l'as dit, hein, évidemment, ce n'est pas les joueurs, les meilleurs joueurs, on va dire les plus éclatants, parce que sinon, évidemment, que Osimhen et Vara auraient pu en être. Mais moi j'ai choisi Di Lorenzo, le capitaine, parce que pour moi c'est vraiment un exemple d'irrégularité. C'est quelqu'un qui enchaîne les performances de haut niveau, capable de redoubler les efforts sur son côté droit. C'est quelqu'un qui a su progresser au fur et à mesure du temps. Faut rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Johan, en 2018, il jouait encore à Matera, en Serie C, ouais. Et qu'aujourd'hui, il est champion d'Italie, champion d'Europe. Donc, la trajectoire de Di Lorenzo est assez dingue. En 2019, il joue encore à Empoli. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a su gravir les échelons, qui a su progresser. Et pour moi, vraiment, depuis qu'il arrive au Napoli, alors évidemment, il a pris une autre dimension, mais cette capacité, évidemment, que ce n'est pas le joueur qui va te sauter aux yeux parce qu'il y en a des autres, voilà, qui te saisissent le regard. Mais Di Lorenzo, c'est quelqu'un qui a effectué une saison de très haut niveau et constamment, il n'a pas connu ou très peu connu de moments, on va dire, de bas. Il a toujours porté son équipe. On l'a vu, ça a été aussi un leader dans le vestiaire. Il a su mobiliser ses troupes, il a su les calmer aussi dans les moments où c'était opportun. Donc voilà, pour tout ça, je trouve que la trajectoire de Di Lorenzo, déjà, elle pourrait inspirer beaucoup, même chez les jeunes, parce que ça te prouve qu'en l'espace de 5 ou 6 ans, tu peux passer d'être un joueur de 3ème division à être champion d'Europe avec l'Italie et champion d'Italie avec Naples. Et c'est en plus quelqu'un, tu sais, Johan, qui est correct. C'est-à-dire que. Alors tu le sais, moi je suis pas un grand fan de Mancini, de la Roma par exemple, tu vois, qui a pour moi vraiment une attitude assez irritante en général, tu sais.
Ah bon
c'est quelqu'un vraiment, c'est rare hein, que j'ai du mal à certains joueurs. Évidemment, on a toutes des préférences, mais Mancini, j'avoue que j'ai un peu du mal avec son comportement en général. Ouais. Et quand je vois Di Lorenzo à côté, qui est capitaine, qui est toujours exemplaire, qui protège assez rarement. Alors certes, parfois il va au contact de l'arbitre, on va discuter, mais c'est pas quelqu'un qui sera dans la véhémence. Et même pour ça, la personne qu'il est, et parce qu'aussi il est en Toscane, comme ma maman à moi, Johan, bah voilà, moi j'ai choisi Di Lorenzo parce que c'est aussi un peu, on va dire, mon frère de région. Donc, donc voilà.
Non, mais tu sais, Guillaume, c'est. On donne souvent beaucoup d'importance à ce rôle de capitaine. Tu sais, on entend tout le temps plein de trucs. Là, il faut un charisme incroyable. Il faut être ultra fédérateur. Il faut être un leader sur le terrain. Faut limite mettre ton meilleur joueur. T'en as qui pensent aussi que le capitaine, faut mettre le meilleur joueur. Tu vois? Bah, lui, en fait, il a pas un charisme incroyable. C'est pas le meilleur joueur sur le terrain. Ça veut pas dire qu'il est pas bon, hein, mais c'est juste pas le meilleur joueur du Napoli. Et pourtant, c'est un capitaine qui a la gueule d'un capitaine, en fait. Oui. Tu vois, c'est un peu bizarre, mais...
Tu sais, même dans la posture, ouais, toujours droit, tu sais, ouais, le torse bombé. C'est quelqu'un, vraiment, qui a l'attitude, de, pour moi, parfaite du capitaine, sans jamais être dans l'excès, dans le... Bah, de surenchère tout le temps à la moindre faute. Enfin, pour moi, voilà, il représente parfaitement ce Napoli-là.
Et c'est aussi... tu parlais de la belle histoire, évidemment, en l'espace de 5 ans, de passer de la Détroit à... titre de champion d'Italie, sachant qu'il y a 2 ans maintenant, il a remporté l'Euro aussi. C'est aussi, effectivement, un beau symbole de se dire que c'est quand même le joueur qui va soulever le trophée après Maradona. Tu vois, tu passes de la superstar interstellaire, ne pesons pas nos mots, à un joueur, j'ai presque envie de dire lambda, en fait. Et je trouve que c'est aussi la preuve de tout le travail qui a été fait par Naples, qui a été accompli par Naples sur savoir détecter les bons joueurs, les mettre dans un bon environnement, les faire progresser avec le club, le jour aussi d'être à l'écoute de ce que lui demandait Spalletti, de progresser, de toujours se remettre en question, d'assumer le brassard de capitaine, parce que Guillaume, on parle à capitaine, mais il prend la suite de qui à Naples, Di Lorenzo? De Insigne et Koulibaly. Qui en gros, les deux avec le brassard, quand Insigne n'était pas là, c'était Koulibaly, etc. Tu te rends compte du poids aussi rien que pour Di Lorenzo au départ de la saison?
Ouais, bien sûr.
C'est dingue, en fait. Et je suis content que tu aies choisi aussi Di Lorenzo. Juste pour terminer, parce qu'on a évoqué le cas, entre guillemets. Toi, le meilleur joueur du Napoli cette saison?
Écoute.
Alors, le meilleur ou le plus important, je sais pas trop comment le dire, mais parce que meilleur, ça dépend du poste, machin, etc. On va dire le plus important du Napoli.
Écoute, je vais quand même, parce que ne pas le. Pour moi, Osimhen, voilà, pour moi, quand tu es champion, avoir un buteur de ce calibre-là. Et Osimhen aussi a passé un cap, hein, parce que Osimhen, cette saison exceptionnelle, mais ça n'a pas été toujours le cas à Naples. Hein, on se souvient, sa blessure avec Skriniar. Enfin, évidemment, plus compliqué, mais. Pour moi, cette année, vraiment, il a été décisif quand il le fallait. Après, on aurait même pu parler, tu vois, de Meret, qu'on a très peu cité. Pour moi, vraiment, Osimhen, cette saison, il a pris cette dimension-là, capable de, bah, d'amener le Napoli vers le titre avec ses buts, avec vraiment sa manière d'être. On avait souvent parlé de lui dans le passé, Johan, tu sais, parfois un peu trop, comment dire, c'est sa gestuelle, parfois un peu trop, comment dire, démonstrative. Et cette saison, vraiment.
Un peu trop nerveux, quoi.
Voilà. Cette saison, vraiment, j'ai vu un Osimhen, leader d'une équipe capable d'être championne. Et, ouais. Et pour moi, cette capacité à se calmer pour lui cette saison, c'était un peu l'image aussi du Napoli. Bah, il a fallu du sang-froid pour aller au bout. Et le Napoli était capable. Et c'est pour ça que pour moi, Osimhen, évidemment, comme une sorte d'évidence, est le meilleur joueur du Napoli.
Bah, je vais te rejoindre. Et tu sais ce qui a fait pencher la balance pour Osimhen, c'est qu'en fait, je trouve que son absence se voit. Ça veut pas dire que Simeone et Raspadori sont pas des bons joueurs, mais en fait, dans le profil, il t'apporte tellement de choses et tellement de choses différentes par rapport à Simeone et Raspadori, cette capacité à jouer aussi bien dans les pieds que dans la profondeur, ce que font assez peu les deux autres joueurs. Je parle de la profondeur. Le jeu aérien qui est incroyable de Simeone. Simeone aussi, plutôt pas mauvais d'ailleurs dans le jeu aérien, mais de Osimhen. Osimhen est quand même sur la saison dernière et la saison en cours, si on prend championnat et Coupe d'Europe confondus, mélangés, Osimhen est le joueur qui a marqué le plus de buts de la tête dans les 4 grands championnats européens, plus la Ligue 1. Je veux dire, on n'est pas sur quelque chose d'anodin quand on a une telle qualité athlétique aussi. Donc, je suis d'accord, en fait, tu vois, on peut hésiter, hein, évidemment, Gvara, lui, Kim, Lobotka, je trouve qu'il y a dans toutes les lignes, il y a eu des joueurs importants, mais même Zambo, hein, Zambo fait une très grosse saison aussi, Zambo Anguissa.
Évidemment.
Mais Osimhen et...
Mais Meret aussi, hein, tu sais.
Oui, bien sûr, bien sûr.
il a su progresser. On s'en souvient, rappelle-toi, hein, son match à Empoli, qui pour moi, voilà, était assez marquant la saison dernière, où il rate une relance. Enfin, cette saison, il a affiché un très très haut niveau, et c'est aussi symbolique du mental que ce Napoli a eu et de sa manière à ne jamais baisser la garde. Et Meret en est aussi l'exemple.
Mon cher Guillaume, voilà qui boucle notre podcast spécial Napoli Campione d'Italia. On doit dire que c'est quand même rafraîchissant aussi, hein, mon cher Guillaume. Et mine de rien, quand on y pense, Guillaume, 2023, Napoli. 2022, AC Milan. 2021,
Inter.
2020,
la Juve.
4 champions différents sur les 4 dernières saisons.
C'est
plutôt pas mal. Après avoir connu 9 ans de dynastie, c'est pas pour autant que c'était pas mérité, hein. Mais c'est chouette d'avoir un peu de turnover et de suspense à nouveau dans le championnat italien.
Et dans un prochain podcast, tu vois, on va attendre un peu, voir un peu l'évolution de ce qui se passe à Naples, mais parler un peu, évidemment, on le sait, hein, Toli, directeur sportif, qui pourrait partir.
Même Spalletti, c'est pas clair. Hein.
Ouais, mais exactement, même Spalletti. Donc, on va attendre un peu l'évolution des choses. On va aussi voir l'évolution de nos clubs en Europe. Mais voilà, on pourra faire une mise à jour quand même. Hein. Là, on a vraiment axé sur le Napoli champion, mais on verra bien si cette capacité à créer un cycle est toujours possible. Mais c'est certain que, en tout cas, si tu perds Spalletti et Giuntoli, ce sera forcément un coup extrêmement dur à digérer après un titre comme ça. Mais en tout cas, pour l'instant, la fête, elle est toujours là à Naples. Ouais, donc je ne vais pas gâcher ça. Mais en tout cas, dans un prochain podcast, évidemment, on aura plus d'informations aussi, faire un point sur le possible cycle que pourrait ouvrir Naples.
Évidemment. Et puis, on fera peut-être, mon cher Guillaume, ce qu'on a toujours fait en fin de saison, notre 11 de l'année.
Bien sûr.
C'est quand même un podcast qu'attendent aussi les auditeurs et auditrices.
Et tu sais, Johan, j'ai eu une vision. Et je dois
clairement... Oula, oula.
Ouais, j'ai eu une vision.
D'accord.
Je crois qu'on va avoir un club italien en finale des Champions. Je crois. Je ne suis pas certain, mais je crois.
Ouais, je crois qu'on s'approche du 100%. Mais bon.
Je trouve qu'on pourra en parler aussi.
Effectivement, il y a une belle fin de saison à vivre du côté des clubs européens, espérons-le. Enfin, en tout cas, pour un d'entre eux, un sur les 5, c'est sûr. Les 4 autres, on verra. Mais on pourrait avoir une très belle fin de saison aussi également sur le plan des Coupes d'Europe. Voilà, mon cher Guillaume, qui boucle notre épisode spécial Napoli champion. Un titre vraiment qui nous a enthousiasmés, clairement, comme des milliers, des centaines de milliers de Napolitains. On remercie encore une fois les auditeurs et auditrices. On rappelle les 5 étoiles, mon cher Guillaume, sur Apple
Toujours.
Podcast.
Bien sûr.
Je crois qu'on peut même noter sur Spotify maintenant.
On peut noter partout.
Voilà, n'hésitez pas à partager le podcast, etc.
Parlez-en.
Voilà,
vos
retours sont les bienvenus, donc n'hésitez pas. Et puis on se dit à très vite pour un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé. Ciao, ciao.